Bien, bonjour Sandra, c'est un plaisir de vous voir et bonjour à tous les visiteurs aussi qui sont là parmi nous ce matin. J'aimerais, sans transition, partager avec vous un passage qui se trouve dans Exode, chapitre 3, et on va lire les versets 1 à 12. Et j'aimerais parler d'une rencontre imprévue, ou encore rencontrer Dieu quand on ne s'y attend plus. Alors pour ceux qui veulent suivre sur l'écran, c'est possible. Je vous mets le texte ici, même si c'est un peu petit. Vous verrez, ça ira mieux après. Alors, Exode 3, versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire montrer de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et je m'arrête ici. Alors, si j'ai à cœur de lire ce passage avec vous, de le partager avec vous, c'est en fait pour une raison très simple, c'est que je l'ai lu et on en a parlé avec les enfants de l'école du dimanche, il y a à peu près un mois, et c'est extraordinaire quand on prépare un texte à partager avec les enfants, c'est que finalement, ça ne parle plus à moi, je pense que à eux, et c'est vraiment encourageant et c'est motivant de pouvoir partager ça avec des enfants, surtout qu'il faut rendre les choses simples, et c'est extraordinaire de voir que finalement, Dieu nous parle à travers des choses simples, et c'est souvent celles qui nous font le plus avancer. Alors, j'aimerais partager avec vous trois aspects sur cette rencontre inattendue. La première, c'est tout simplement la situation de Moïse. En effet, on a l'impression dans ce passage qu'il vit une sorte de routine qui est sans fin et sans limite. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il faut juste se pencher un petit peu sur le contexte. Le contexte apparaît au chapitre 2, le chapitre précédent, et en fait, du chapitre 2 au chapitre 3, il y a 80 ans qui vont s'écouler, en quelques phrases. Au cours de ces 80 ans, qu'est-ce qui se passe? À 80 ans plus tôt, c'est la naissance de Moïse. Moïse, dont le nom signifie « sauver des eaux », puisque en fait, il a été recueilli par une princesse égyptienne, la fille de Pharaon, qu'il a donc éduquée dans sa cour, et Moïse a donc reçu une instruction hautement qualifiée pour l'époque. À 40 ans, Moïse est persuadé qu'il a un rôle à jouer auprès des Hébreux, dont il fait partie. Son rôle est simple, délivrer son peuple de l'oppression des Égyptiens. Ça fait plusieurs centaines d'années que les Hébreux sont installés en Égypte. Au départ, tout allait bien, mais les choses vont de mal en pis et la situation n'est plus safe. Je traduirai pas ? Évidemment, la situation va mal et Moïse est persuadé que grâce aux circonstances de sa vie personnelle, grâce à son éducation, sa haute éducation dans la cour de Pharaon, c'est lui qui a un rôle à jouer. Il prend les choses en main, sort dans la rue, rencontre un Égyptien en train d'embêter des Hébreux, il l'attrape, le tue et se pose ainsi en libérateur. Sauf que les choses vont mal se passer pour lui puisqu'en fait, la police scientifique va se mettre à ses trousses et il va être obligé de fuir bien loin de l'Égypte, près du Yémen actuel, là dans le sud de l'Arabie Saoudite, dans le sud de la péninsule du Sinaï, qui se trouve actuellement entre Israël et l'Égypte. C'est une région complètement désertique, il n'y a plus d'habitants, et il est là un petit peu reclus, vivant retiré de ce faste qu'il a connu auparavant. Dans Actes 7, au verset 25, il y a un éclairage intéressant sur ce que Moïse a essayé de faire. Étienne dit dans ce discours, Moïse pensait que ses frères, les Hébreux, comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais les Hébreux ne comprirent pas. Et voilà que tout le projet que Moïse avait formé, il avait réfléchi et mûri, de délivrer son peuple, du jour au lendemain, s'écroule parce qu'il est incompris. Et la conséquence, c'est qu'au lieu de participer à la délivrance de son peuple, il se retrouve dans une région perdue, et pendant 40 ans, il va être au service de quelqu'un d'autre pour garder ses moutons. C'est un peu aujourd'hui comme si quelqu'un qui aurait fait de hautes études, qui aurait réussi Polytechnique ou l'ENA, ne soit pas accepté dans une grande entreprise pour un poste important, mais à qui on demande de travailler tout simplement dans un métier agricole. Vous imaginez le décalage. 40 ans au service de son beau-père. Dans Exode 3, verset 1, on lit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. » Il y a plusieurs choses qui apparaissent dans ce verset. Quel est le contexte? Déjà, Moïse n'a pas réussi à monter sa propre entreprise. Il est obligé de travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Qui plus est, une entreprise familiale, il n'a pas vraiment d'indépendance. En plus, Moïse ne travaille pas pour quelqu'un qui a la même croyance que lui. Jéthro était sacrificateur de Madian, qui avait connaissance du Dieu des Hébreux, puisque Madian est une tribu qui descend d'Abraham, mais qui adorait aussi d'autres dieux. En plus, Moïse se trouve dans le désert. Ce désert, c'est le désert de la péninsule du Sinaï, et c'est évidemment une région qui n'est pas tellement riche culturellement. Bref, total contraste avec ce qu'il a vécu auparavant. Alors, ça c'est ce que le texte nous dit. Mais le texte nous laisse aussi deviner ou imaginer d'autres circonstances dans lesquelles Moïse se trouve. À commencer, cette question simple, est-ce que Moïse était seul avec son troupeau? Est-ce qu'il avait une équipe de bergers autour de lui? On peut le penser, on peut le supposer. Est-ce qu'il avait du succès dans son travail? Ou est-ce qu'il n'avait pas de succès? En fait, ces questions ne sont pas abordées par le texte. C'est pas là l'important. On peut aussi se poser la question, Moïse était-il satisfait de sa situation? Après tout, ça fait 40 ans qu'il est là. Est-ce que 20 ans plus tôt, il n'aurait pas pu déjà retourner en Égypte? Ou essayer de se lancer dans sa propre affaire. En fait, on a un indice à travers le lieu où il se trouve. Moïse se trouve à Horeb. Alors quand vous parlez à des enfants de l'école du dimanche et que l'un d'entre eux s'appelle Horeb, alors, il faut aller quand même voir la signification de ce nom. Et Horeb, dans le contexte ici, ça veut dire désert ou solitude. Donc Moïse chemine avec son troupeau dans un contexte de désert ou de solitude. Et quelque part, c'est un petit peu la situation qu'il vit et qui doit certainement lui peser. Cette retraite forcée est une retraite qui dure, est une retraite de solitude, et c'est une véritable traversée du désert dans sa vie. Peut-être que Moïse est-il allé jusqu'à la déprime, à la dépression. Une chose est sûre, c'est que ce qui doit lui peser le plus, c'est pas tant tout ce qu'il a perdu en quittant l'Égypte, mais c'est aussi parce que dans le futur, il n'y a pas de perspective. Le temps passe et rien ne change. Le temps passe et qu'est-ce qu'il fera demain? Certainement la même chose qu'il a fait aujourd'hui et la même chose qu'il a fait hier, garder des moutons. Moïse se voyait en libérateur de son peuple 40 ans plus tôt et voilà que il est simplement au service de son beau-père pour conduire un troupeau. Alors certes, le texte et d'autres textes nous informent que la situation n'est pas non plus totalement sombre. Il a un beau-père qui s'avère être honnête. Tout ce que nous disent les autres textes sur Jéthro sont des textes positifs où on voit que Jéthro est un homme sage et qui a traité Moïse avec égard. En plus, il a pu épouser une femme qui lui a donné 2 enfants. Donc voilà un personnage qui finalement est établi. Il a peut-être sa maison, sa piscine, 2 filles, tout va bien. Et il vit auprès d'un beau-père honnête et respectueux. Mais ce qui lui manque finalement, c'est quand même essentiel. Il n'y a pas d'avenir, rien ne change. Et ce qu'il a vécu hier va se répéter demain. Et ça peut faire écho à notre vie personnelle aussi. Ma situation professionnelle, ta situation professionnelle, ou peut être aussi vécue comme cela. J'ai l'impression de vivre une situation où finalement, demain, tu vas faire ce que tu as fait hier et ce que tu fais déjà aujourd'hui. Mais finalement, quel est le but de ce que tu fais? Quel est l'objectif? Hormis gagner de l'argent et bien sûr assurer ta vie familiale. Mais ça peut être aussi la situation familiale qui peut être comme une traversée du désert, une sorte de solitude, où finalement ta situation familiale est compliquée, semble sans espoir, sans perspective et sans solution. Et puis c'est vrai aussi sur le plan spirituel. Parfois notre situation spirituelle semble comme sèche, comme sans espoir, comme sans solution. Et finalement, on se dit, de la même manière que j'ai l'impression de ne pas avoir de relation avec Dieu aujourd'hui, ce sera pareil demain. Je pense que Moïse avait des problèmes dans ces 3 circonstances, professionnelles, familiales, spirituelles. Ne serait-ce que parce que plus loin, on apprend que, par exemple, il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec sa femme pour circoncire ses fils. Alors que c'était la tradition chez les Hébreux de le faire, sa femme s'y était opposée, et il va être obligé de le faire très rapidement, dans l'urgence, plus tard, dans la suite de sa vie. La vie de Moïse est sans but, semble routinière, semble pénible, semble fatigante, déprimante. C'est une routine sans fin. Jusqu'au moment où arrive un tournant, une rencontre extraordinaire. Et ce qui me parle, et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que cette rencontre, elle se fait à quel moment? Elle se fait dans ce contexte routinier. Elle se fait dans ce contexte où tout semble ressembler d'un jour à l'autre, où tout semble se ressembler d'un jour à l'autre, et où finalement rien ne semble changer. Et c'est là où une rencontre extraordinaire a lieu. Un ange de l'Éternel apparaît à Moïse, et c'est une apparition singulière, puisque ça se fait à travers un buisson qui est en train de brûler, mais sans brûler. Alors, je ne peux pas vous expliquer scientifiquement comment c'est possible, ça va être compliqué. Mais par contre, juste une petite remarque sur la représentation qu'on peut tendance à avoir sur ce buisson. Moi, j'avais toujours imaginé un petit peu un buisson qui soit, de la taille de ce meuble, et qui brûle devant Moïse. En réalité, on pense que c'est peut-être une variété d'acacia qui pouvait avoir jusqu'à 4 mètres de haut. Donc, on peut imaginer que c'était carrément une sorte de brasier énorme qui brûle au milieu de ce désert, au milieu de cette région aride, et qui interpelle Moïse. Alors, évidemment, le texte est un petit peu plein d'humour parce que, au verset 3, alors que le buisson est en train de brûler, on voit Moïse qui dit « Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Comme si la curiosité de Moïse était surprenante, j'imagine que nous, on ferait évidemment pareil. Et Moïse est plein de curiosité sur ce qui est en train de se passer. En fait, on peut se poser la question de savoir quel est ce buisson et qu'est-ce qu'il représente pour nous. Vous savez, pour apprécier l'art, il faut avoir un tant soit peu un sens artistique, ou alors l'avoir développé par une formation. Je ne sais pas si vous connaissez les gravures de Gustave Doré, un célèbre graveur du 19e siècle, qui a réalisé plus de 10 000 sortes de représentations et qui ont influencé beaucoup d'artistes par la suite. Si vous voyez ces gravures, au premier abord, vous dites, voilà, c'est des gravures toutes simples, enfin, c'est pas forcément extraordinaire. Et en se plongeant dans son travail, en étudiant un petit peu ce qu'il a fait, on réalise à quel point c'était quelqu'un qui débordait d'imagination, mais aussi d'interprétation sur toutes sortes de grands ouvrages de la littérature qui existent. Il n'y a que quelques personnes qui ont un sens inné des couleurs, des formes, de l'harmonie. Et pour ces personnes, l'amour de l'art est naturel. Si vous n'avez pas ce sens-là, ou si vous n'avez pas été formé, et que vous visitiez un musée d'art, ou une galerie d'art, ça va vous paraître pas forcément intéressant. De même, pour apprécier de la bonne musique, ben, il faut avoir le rythme en soi, il faut développer son sens musical, et au contraire, si vous allez à l'opéra, ou si vous écoutez un concert symphonique, vous risquez de vous endormir, ce qui peut se comprendre. Mais c'est finalement la même chose avec ce qui concerne Dieu. Parler de Dieu peut devenir particulièrement sans intérêt et ennuyant si tu n'as pas une connaissance minimum de qui est Dieu et de ce qu'il veut pour toi. De la même manière, fréquenter une église, ça peut aussi devenir sans saveur, et la Bible peut devenir fatigante si le Saint-Esprit n'illumine pas ton âme de sa présence. Et je crois ici que ce feu qui brûle sans consumer le buisson et qui interpelle Moïse, c'est une image aussi du Saint-Esprit qui tout d'un coup nous interpelle et nous donne envie de réaliser que ces pages qui sont là ne sont pas seulement des pages d'un livre antique, mais ce sont des pages qui peuvent devenir vivantes, qui peuvent devenir transformantes et qui peuvent transmettre la vie. Ce feu qui brûle sans consumer le buisson, c'est celui qui peut rendre ce livre réconfortant pour notre cœur, qui peut rendre ce livre, qui peut transformer ce livre sous la forme d'un message personnel et qui peut être pour nous le début d'une relation avec Dieu. Mais, il y a un mais, regardez ce que Moïse fait ici. En verset 3, Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. De la même manière, on peut savoir que ce livre est le moyen que Dieu peut utiliser pour nous parler, mais on a besoin de se détourner pour voir. Il faut qu'on prenne la peine de l'ouvrir et puis de lire ce qui concerne Jésus-Christ à l'intérieur. De la même manière, on a évoqué cette semaine les réunions de prière décentralisées. Et vraiment, je vous encourage à participer à ces réunions de prière. Allez voir Jean-Lionel si vous ne savez pas quelle est la réunion qui a lieu dans votre quartier. Et participez à ces réunions de prière. C'est aussi le moyen que Dieu utilise pour nous faire voir ce buisson ardent, pour se révéler à nous et pour nous encourager à travers le partage de ce qu'il fait dans nos vies en petits groupes. Moïse veut se détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et justement, Dieu va se révéler à lui. Et je vous propose de voir que Moïse est mis dans la confidence des projets de Dieu. Et c'est extraordinaire parce que dans ce passage, on découvre sept facettes de la personnalité divine. Sept facettes de la personnalité divine. Alors la première facette, on la trouve au verset 4. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Le premier aspect de la personnalité de Dieu, c'est qu'il connaît Moïse par son prénom. Et comme il connaît Moïse par son prénom, il te connaît aussi par ton prénom personnellement. Comment c'est possible? Je ne sais pas, mais c'est une vérité. Ce qui est confirmé tout au long des Écritures. Pensez au début de la Bible, lorsque Dieu appelle l'homme et la femme dans le jardin, il dit que la voix de Dieu parcourait le jardin, et à un moment donné, Dieu dit à l'homme, « Où es-tu ?» Lorsque Dieu appelle un jeune homme qui s'appelle Samuel pendant la nuit, à trois reprises, il va répéter, « Samuel, Samuel, Dieu te connaît personnellement par ton prénom. » Deuxième aspect de Dieu, on la trouve au verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs et je connais ses douleurs. Et c'est répété encore après. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le deuxième aspect, c'est que Dieu connaît la situation dans laquelle est Moïse. Dieu connaît la situation dans laquelle est son peuple. Dieu connaît quelle est ta situation, et Dieu sait quelle est la situation aussi de notre Église ici, et on peut lui faire confiance qu'il va agir. Dieu, même pendant ces 40 années de traversée du désert, Dieu voyait cet être humain qui conduisait ce troupeau dans un lieu désertique et peu habité. Dieu voyait Moïse, et pendant 40 ans, il a vu Moïse. Et pendant 40 ans, Dieu a veillé sur Moïse. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu a permis quelque chose d'extraordinaire. Il a permis que pendant 40 ans, Moïse développe des qualités. Et souvent, j'ai tellement tendance à oublier cela. On vient de se lancer dans une aventure, ce qui a été pour nous une aventure avec ma femme, de retaper complètement un appartement. Et je me suis lancé là-dedans alors que je n'avais jamais fait. Et vous savez quoi? Ça a tellement soulevé en moi d'angoisse et de crainte et de peur de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment faire. Et ça a été vraiment pour moi l'occasion de tourner vers Dieu et d'apprendre à lui faire confiance. Et vraiment, c'était une épreuve difficile, mais au bout de ces 3 mois, je peux dire oui, j'ai appris des choses. Et Dieu m'a formé à travers ce que j'ai vécu. Je vous dirai comment après. Quelle qualité Moïse a-t-il développée dans cette situation? Alors, la première qualité qu'il a développée, c'est la connaissance de la géographie du lieu. Il était capable de trouver son chemin et de ne pas se perdre au milieu de cette région où un caillou ressemblait à un autre caillou. Ça lui servira plus tard lorsqu'il devra conduire le peuple des Hébreux sortis d'Égypte dans cette région-là. Deuxième qualité, il a développé la patience et la persévérance pour conduire le peuple. Et ça va lui servir. Troisième qualité, il a développé le contentement de sa situation. le contentement de sa situation. On peut se poser plein de questions sur l'état d'esprit de Moïse pendant ses 40 ans. Toujours est-il que pendant 40 ans, il a fidèlement servi son beau-père. Et il a développé le contentement de sa situation. Et ça, c'est compliqué à développer hein, quand on est dans des études qui sont parfois pénibles ou dans une situation professionnelle qui n'est pas agréable. Moïse, par la suite, grâce à ses qualités, a pu gérer Mara, Man et Massa. Mara, Man et Massa, c'est facile à se souvenir. Mara, Man et Massa, c'est les trois premiers chocs que Moïse va avoir avec le peuple des Hébreux une fois qu'ils seront sortis d'Égypte. Mara, c'est le lieu où le peuple arrive et il a soif, il trouve de l'eau, il commence à boire et l'eau est absolument horrible. Impossible de boire. Et voilà qu'il se retourne contre Moïse en disant « Voilà, tu nous as amenés dans le désert, tu veux nous mettre morts, regarde cette eau, c'est la seule qu'on puisse boire et elle est imbuvable. » Chapitre d'après, la manne. Le peuple a faim. Le peuple ne peut pas cultiver suffisamment de nourriture et n'a pas suffisamment de nourriture. Le peuple a faim. Et il va falloir que Dieu intervienne par miracle pour permettre à la manne de tomber du ciel et aux cailles de nourrir le peuple pour qu'il puisse vivre dans ce désert. Et ça va durer 40 ans. Et Massa, c'est jamais 203. Le peuple s'est plaint deux fois et a failli se révolter contre Moïse. Et à Massa, qu'est-ce qui se passe? De nouveau, le peuple a soif. Et le peuple n'a en face de lui qu'une montagne, qu'un rocher, duquel ne sort aucune source. Il va falloir que Dieu dise à Moïse, prends ton bâton, va frapper le rocher. Et là se passe ce qui était absolument impossible. L'eau sort du rocher et le peuple peut être abreuvé. Moïse a développé le contentement de sa situation, la patience et la persévérance pour conduire ce peuple envers et contre tout dans le désert. Lorsque le peuple veut se révolter contre lui et veut le remettre en question et veut même le lapider, eh bien Moïse tient bon et il a confiance en Dieu. Quelles sont les qualités que Dieu développe dans ta vie, dans la situation que tu vis en ce moment ? Je peux vous dire que ces travaux qu'on a réalisés avec mon épouse ont développé deux qualités, en tout cas, je pense, dans ma vie. Et des qualités qui, en fait, ne dépendent pas de moi, mais dépendent de Dieu. La première, c'est que Dieu a permis que des anges nous appellent un jour ou l'autre et disent « Est-ce qu'on peut venir t'aider et te donner un coup de main pour que les choses avancent dans ton appartement ?» Et il y a tellement de personnes qui sont passées dans l'église ou autres qui sont venues nous aider au moment où on en avait le plus besoin et il fallait que les choses avancent vite. Et ça, c'est vraiment, pour moi, Dieu qui est fidèle dans cette situation. Et puis la deuxième chose, c'est que ça m'a permis aussi de dire, quand mon cœur se remplit d'angoisse et de désespoir parce que j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais, de dire « Ok, Seigneur, je me décharge sur toi, je te parle de ce que je ressens et des difficultés que j'ai face à cette situation, des angoisses que j'ai, et maintenant je veux te faire confiance. » Et ça paraît extraordinaire de vivre cela et de réaliser que Dieu, en effet, gère nos situations personnelles, aussi concrètes soient-elles et aussi personnelles soient-elles. Dieu, dans cette situation, agit avec un but. Et c'est le troisième aspect qui concerne les qualités de Dieu ici. Dieu connaît la situation du peuple et Dieu sait ce dont le peuple a besoin. Qu'est-ce que Dieu propose au peuple ici ? Dieu propose de délivrer ce peuple qui a besoin de liberté. Il propose de le faire monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Dieu sait ce dont le peuple a besoin. Il a besoin de quoi ? Il a besoin de liberté, il a besoin de sécurité, il a besoin de paix, et au final de joie. Et c'est aussi ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de sécurité. Et c'est ce que promet ici Dieu au peuple des Hébreux. Et c'est ce que Dieu nous promet aussi. Et vous savez que David avait réalisé cela dans le psaume 23, lorsqu'il dit, vous savez, le psaume 23, ça commence par « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et ce qui est extraordinaire, c'est la fin. Dernier verset, et il dit quoi ? Il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Une grand-mère que je connaissais à Paris m'a influencé sur la lecture de ce passage. Et elle m'a dit, et chaque fois que je le lisais à haute voix pour elle, elle me disait « Mais non, tu lis mal, il faut pas lire comme ça, il faut lire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et c'est clair, c'est une affirmation de David. Il n'est pas en train de dire « Oui, demain, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront aujourd'hui et demain pour tous les jours de ma vie. » Et c'est ça, le pays où coule le miel que Dieu veut nous proposer aujourd'hui. Ce n'est pas la perspective de circonstances extraordinaires et parfaites, c'est la perspective de pouvoir vivre dans sa présence, dans la confiance qu'il est au contrôle de ce que nous vivons, et qu'il a le bonheur et la grâce à nous accorder dès aujourd'hui. Quatrième aspect de Dieu, et non des moindres, c'est que Dieu n'est pas seulement celui qui veut satisfaire nos besoins matériels et concrets ici-bas, et à l'intérieur de notre cœur, mais Dieu aussi est celui qui veut nous rappeler qu'il est saint, qu'il est parfait, et que malgré cela, il prend soin de nous. Dieu est saint. Lorsqu'il aborde Moïse, il lui dit quoi à Moïse ? Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et pourquoi ce lieu est saint ? Non pas comme aujourd'hui, où c'est un lieu qu'on peut visiter au sud de la péninsule du Sinaï, et qui a été muré autour d'un... On en a fait un monastère. Non, ce lieu est saint, tout simplement parce que Dieu y est présent. Et là où Dieu est présent, c'est là où il se révèle, mais c'est là où il se révèle aussi comme étant celui qui brûle sans se consumer. Celui donc qui est vivant. Et celui qui se présente comme un feu, le feu qui brûle tout ce qui lui déplaît et tout ce qu'il ne peut pas accepter. Dieu est saint parce qu'il ne peut pas accepter que des pécheurs viennent dans sa présence. Et nous ne sommes pas dignes de venir dans la présence de Dieu. C'est impossible. Seul Christ l'a rendu possible grâce à son sacrifice. Pour que désormais, Dieu puisse nous prouver que s'il nous connaît, s'il connaît nos besoins, notre situation, notre prénom, c'est aussi parce que il est saint et que dans sa bonté, dans son amour infini, il veut se révéler à nous. Cinquième aspect, c'est le contexte de cette réunion que Dieu a avec Moïse. C'est vrai, on a un petit peu l'impression d'assister à une réunion de projet. Je ne sais pas si vous vivez ça dans votre vie quotidienne. Chaque fois qu'on veut organiser quelque chose, il faut réunir une équipe et puis il y a des projets qui se mettent en place. Et puis là, on commence par faire l'appel, un peu comme Dieu fait ici, en disant « Moïse, Moïse, est-ce que tu es là ?» Et Moïse dit « Oui, je suis là. » Et la suite, c'est quoi ?« Ben maintenant, va. Tu as dit que tu étais là, alors tu vas faire maintenant ce que je vais te dire de faire. » Imaginez Moïse, qui entend Dieu lui parler, lui dire qu'il va délivrer son peuple, qu'il va le faire sortir d'Égypte, qu'il va l'emmener dans un magnifique pays. Et Moïse qui est là en train de dire « Alléluia, c'est magnifique Seigneur, vas-y, fais-le !» Et qu'est-ce que Dieu répond ? Maintenant, va, et va délivrer le peuple. C'est toi qui vas le faire. Et c'est quoi la réponse de Moïse ? Qui suis-je ? Il y a une qualité que Moïse a développée dans le désert, c'est celle de l'humilité. Moïse ne répond pas : Ah, merci Seigneur, depuis le temps que j'attendais ça, t'as vu comment j'ai tué cet Égyptien il y a 40 ans, allez, j'y vais, je vais monter une armée, je vais délivrer le peuple. Cette fois-ci, Moïse répond « Qui suis-je » Qu'est-ce que Dieu a besoin pour pouvoir t'utiliser et se servir de toi ? Bah, de te demander de t'appeler à son service et que tu répondes « Seigneur, il y a peut-être quelqu'un d'autre de mieux à côté de moi. Qui suis-je pour le faire ?» Parce que c'est lorsqu'on répond « Qui suis-je » et qu'on reconnaît qu'on n'est pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous, que Dieu peut agir à travers nous. Et c'est ce que Dieu va faire à travers Moïse. C'est ce que Dieu va faire à travers Moïse parce que la qualité de Dieu, c'est que Dieu veut agir par Moïse, Dieu veut agir par un homme, par une femme, Dieu veut agir par moi, Dieu veut agir par toi. Et comment est-ce qu'il va le faire? Souvent, je me mets à rêver pour cette église, à me dire, mais, ah Seigneur, si seulement on pouvait avoir un Philippe Périlla parmi nous, ou encore si on pouvait avoir un Mike Evans qui vient de finir sa retraite chez nous, ou encore si on pouvait avoir un Tony Anthony qui soit là régulièrement, ou même Moïse, Seigneur, tu peux, je sais pas, faire quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu répond? Il répond, mais attends, t'as pas besoin d'avoir un Mike Evans, t'as pas besoin d'avoir un Moïse parmi toi. De qui tu as besoin? Mais t'as besoin de Christ. Christ aujourd'hui est notre Moïse. Christ aujourd'hui est notre David. Christ aujourd'hui est notre Christ. Il change pas et il nous promet qu'il est là avec nous et c'est lui qui veut conduire notre Église et qui veut nous accorder sa grâce pour aller de l'avant. Dans les réunions de responsables qu'on a eues ces derniers temps, il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé. C'est que lorsqu'on veut encourager une église à aller de l'avant, il y a tellement de paramètres qu'on ne contrôle pas. Et le premier des paramètres, c'est le temps disponible que nous avons pour pouvoir faire avancer l'église. Mais vous savez quoi? Ça peut être un sujet d'inquiétude, mais ça peut être aussi un sujet d'une telle reconnaissance. Parce que Dieu nous promet que c'est lui c'est à lui que l'Église appartient et que c'est par Christ que l'Église va avancer. C'est par sa grâce que l'Église va avancer. Et c'est sa grâce qui tient l'Église entre ses mains. Sixième aspect, c'est que Dieu agit par Moïse, mais Dieu aussi agit avec Moïse. Dieu agit avec Moïse de la même manière que Christ nous promet « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Le feu qui a commencé à brûler ce jour-là dans le cœur de Moïse va s'intensifier par la suite, à tel point que Moïse, qui était dans la crainte de venir dans la présence de Dieu ici face au buisson, plus loin, Moïse, c'est celui qui parle avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. C'est ce qu'on peut lire dans Exode 33, 11. Moïse commence ici par cette rencontre, le début d'une relation personnelle avec Dieu qui va transformer et bouleverser sa vie et qui va l'amener de transformation en transformation. J'ai fait cette rencontre du buisson ardent il y a pas mal d'années maintenant et je pense que tous dans notre vie, il y a un moment donné où on doit faire aussi cette rencontre spéciale, spécifique avec Dieu où il se révèle à nous comme il l'a fait pour Moïse à travers un buisson ardent. Et il allume en nous une flamme qui ensuite brûle tout au long de notre vie. Et vraiment, je vous encourage, si vous n'avez pas fait cette rencontre, mais faites comme Moïse. Je veux me détourner pour voir ce buisson. Détournez-vous, cherchez à rencontrer Dieu de cette manière-là, il va le faire. Et je termine en conclusion avec ce détail que l'on trouve dans Exode 3, verset 1. Je reviens sur ce premier verset parce qu'il y a un détail sur lequel il faut qu'on se penche. Moïse ici qui écrit l'Exode, regardez bien ce qu'il écrit. Il dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et il vint. » Où ça? Il ne dit pas à Horeb ou à la montagne de Horeb. Il précise, il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Mais ça, il l'a écrit après coup. Lorsqu'il est là avec son troupeau, c'est la montagne de Horeb. C'est la montagne du désert. C'est la montagne de la solitude. Mais à partir de ce jour-là, Moïse va rebaptiser cette montagne, la montagne de Dieu. Ainsi, ce lieu qui était un lieu, et qui était le symbole de sa vie désertique, sans but et sans saveur, va se transformer comme étant le lieu de la montagne de Dieu. Et moi, je vais vous laisser avec cette pensée qui est pleine d'espoir et pleine d'encouragement et qui nous remplit de reconnaissance parce que Dieu peut transformer ton Horeb en un lieu qui soit la montagne de Dieu. Merci Seigneur.